Alors, il y a des travaux rue Sainte-Anne à Paris, là. Il y a une équipe qui est venue installer une banderole, on dirait, devant le 63 de la rue Sainte-Anne, qui semble être le siège de LREM.
Nouveau siège de la régression en marche.
I do believe in democracy.
Je crois à la démocratie.
And democracy is not in the street.
Mais la démocratie, ce n'est pas la rue.
So I'm very...
Il y a une élection, je suis au clair avec ça.
I don't mind to have...
Peu m'importe d'être impopulaire.
Je vais maintenant couper le ruban d'inauguration de ce nouveau siège de la régression.
Mon pays doit être réformé.
En marche.
Bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, l'émission de reportage qui va vous faire entrer dans la nouvelle ère sociale.
Inaugurée en direct depuis le studio 511, réalisée par Jérôme Chélius, assisté de Lucille Valérie, une émission enregistrée dans la rue avec à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos.
Alors pendant que les ordonnances passent et les manifestants aussi, au sommaire de ce numéro, deux histoires parmi celles qui risquent de défiler aujourd'hui. À Argenteuil, la mort d'une usine, chronique d'un licenciement boursier et à Paris, la marche des hospitaliers quand l'hôpital craque pour la rentabilité. Deux témoignages d'une France pressée par les impératifs financiers.
Je ne sais pas combien de gens ils devront tuer pour faire du bénéfice, mais grand bien leur fasse, quoi. C'est comme ça.
On n'a plus d'effectifs, on travaille à une cadence où le personnel il est épuisé, il est fatigué. Je pense qu'on est arrivé au bout du bout. On ne vend pas des pots de yaourt, on n'est pas une industrie, on n'est pas l'hôpital, c'est pas une marchandise.
Mais je pense que non, les carottes sont cuites, la messe est dite et les jeux sont faits. C'est à moins qu'il y ait de grands mouvements populaires.
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux?
Battre le pavé, battre le fer aussi quand l'encre des ordonnances est encore fraîche, mais qu'elles sont déjà publiées aujourd'hui au journal officiel et applicables dès aujourd'hui. Tout va vite, très vite, c'est une course de vitesse et tout le monde marche. Mardi, c'était l'action d'inauguration par attaque du nouveau siège de LREM, la régression en marche. Les travailleurs, c'était jeudi 21, partout en France, à l'appel des syndicats. Contre le coup d'état social, c'est aujourd'hui la marche qui vient de partir de la place de la République à 14h, à l'appel de la France insoumise pour résister à la destruction du code du travail. Alors nous aussi, on va marcher aujourd'hui. On vous propose une randonnée dans les friches sociales qui s'annoncent. C'est pas vraiment bucolique et quand les carottes sont cuites, c'est pas pour se souhaiter bon appétit, bien au contraire. Mais l'appétit vient en luttant et en marchant, alors allons-y, la marche c'est pour tout le monde.
Et parmi ceux qui marchent, il y a aussi le personnel hospitalier. À l'initiative du syndicat Sud Santé, ils vont marcher d'un hôpital à un autre pendant 2 semaines pour dénoncer encore et toujours la casse du service public hospitalier. Car le credo depuis des années, c'est qu'il faut réformer, réformer, réformer. On a cessé de vous le dire et de vous le répéter.
Et même notre président nous l'a dit en anglais.
Ouais, c'est vrai, ouais. Pour ceux qui comprennent pas le français, c'était sur CNN mardi dernier. Et la PHP, justement l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est un très bel exemple de réforme à grande vitesse. Sauf que les coups de bistouri ont été tellement francs qu'en 15 ans, on a réussi à créer quelque chose qui ressemble plus à une usine à soins qu'à un lieu où l'on prend soin. Et le personnel, à qui on demande toujours de faire plus avec moins, est à bout. Car même quand le déficit est comblé, quand les objectifs financiers sont atteints et que l'hôpital fait des bénéfices, on supprime des postes et on presse encore un peu plus le citron. Alors, même s'ils ne sont définitivement pas en marche, le personnel hospitalier va marcher et nous, on va marcher avec eux.
Ben moi justement, mon reportage a commencé en marchant aussi, pendant une manifestation contre les lois travail, en y croisant les salariés d'une usine bientôt délocalisée, sans périte, à Argenteuil, avec 64 salariés. La chronique de la mort d'une usine, comme vous en avez déjà trop souvent entendu parler, en brève, mais qui mérite qu'on s'y arrête parce qu'elle résume comment un tissu économique et humain peut être mis à sac par un licenciement boursier. Le 30 juin dernier, les salariés ont su la sentence. La fermeture est annoncée au nom de la compétitivité. C'est la fin d'un chapitre de l'histoire ouvrière de ce coin de la banlieue. Au nom des dividendes versés aux actionnaires, qu'importe le sort de ceux qui parlent de fierté ouvrière. Alors c'est eux, nous, que nous allons écouter.
Comme un bruit qui court, mon hôpital va craquer et chronique d'un licenciement boursier. C'est jusqu'à 17h sur France Inter et c'est tout de suite dans la rue avec les sans-périte.
Leur usine part en Pologne.
On est une bonne usine.
tout ça pour le fric, tout ça pour que les certains actionnaires en profitent de plus en plus.
Une entreprise rentable.
Beaucoup viennent de la prendre en arrivant au travail.
Il veut délocaliser
dans cette usine Whirlpool de Pologne.
C'est vraiment du licenciement pour rassurer la bourse, quoi. On part à l'Est.
On nous avait prévenu du plombier polonais. Hein. On est plein dedans.
Après Goodyear et l'entreprise de matelas Sapsa Bedding,
Caterpillar confirme la fermeture fin 2018.
Toujours à propos d'économie et donc d'emploi, l'inquiétude très sérieuse d'une petite ville de la Nièvre. C'est un équipementier pour l'automobile notamment qui va délocaliser.
Délocaliser.
Délocaliser. Délocaliser.
Il s'agit bien d'une délocalisation.
Guy Vontil,
Charlotte Perry,
Antoine Chao.
La France ferme. On l'a décapité, c'est tout, ça.
Hashtag bon abri.
Vous êtes fatigués, les sans-pays.
Bonjour.
France Inter.
Oui. On a fermé notre usine.
Oui.
Est-ce qu'on va se battre?
Oui.
J'entends les slogans.
Oui.
Et je vois surtout votre t-shirt.
Oui.
Non au licenciement boursier.
Oui. On est une usine qui s'appelle Saint-Périte sur Argenteuil, qui était essentiellement Kléberg, qui faisait des bandes transporteuses pour les carrières, les mines. Donc on nous a déposé un plan pour une délocalisation en Pologne. Donc voilà, on est en combat, on veut le maintien de nos emplois.
Il y a combien d'emplois qui sont
concernés ? Il y a 64 emplois qui sont concernés, et voilà.
Et pourquoi ils délocalisent ?
Ils délocalisent parce que c'est moins cher en Pologne. Un salaire français, c'est peut-être 3 salaires en Pologne, et au niveau des charges patronales, peut-être, je pense pas que c'est les mêmes. Donc voilà, quoi. Ils veulent tout centraliser en Pologne et nous licencier carrément.
Retrait de la loi Macron.
On était la dernière usine de bandes transporteuses en France. On a l'habitude de dire on était le dernier, comme dans Astérix et Obélix, le dernier village gaulois. Eh ben, le dernier village gaulois, ils veulent l'avoir, moi ça ne sera pas faire. Voilà.
Et là, avec ces ordonnances, un groupe peut faire des bénéfices à l'étranger et justifier les pertes en France pour vous fermer vous.
Exactement. On est dans un groupe international, on a une société française qui est en France, ils vont se baser par rapport à la société française. Si la société française ne fait pas de bénéfices, ben ils se baseront sur cette société-là. Tandis qu'avant, c'était ils se basaient sur le groupe. Et les jeux pour diminuer les commandes dans une société française, c'est vite fait. Hein. On nous muselle au niveau des commandes, en 3-4 ans, c'est fait, le jeu, il est fait. Parce qu'on ne peut pas dire qu'une société, un groupe, fait des millions de bénéfices, voire des milliards, et maintenant, on s'y licencie par rapport aux commandes. Mais on sait qu'il fait des milliards, c'est illogique. Donc si ça continue comme ça, je pense que ça va péter. On ne va pas tout casser, mais je pense qu'à mon avis... Il faudra aller à l'Elysée, je pense, les déloger. Parce qu'on vote pour eux, mais on vote pas pour ça. Voilà.
Donc vous serez encore à la manif le 23.
Inch'Allah, comme on dit.
Voilà. Merci beaucoup. Bon courage.
Ben, merci.
Après la manif, nous voici à Argenteuil. Argenteuil, dans le 95, à 10 minutes de Paris, juste derrière la gare, rue des Chartiers. Je vois un grand bâtiment industriel, blanc, et puis devant des grands drapeaux rouges. C'est l'usine Saint-Périte. Devant, je vois quelques messieurs qui sont en train de discuter, un tract à la main. Et je regarde sur la façade des grands slogans. Non au licenciement boursier. Touchez pas à nos emplois. Faire vivre la bande transporteuse d'Argenteuil. Usine Saint-Périte. Bonjour.
Bonjour.
Enchanté.
Comment tu vas? Ça va?
Ça va bien.
Dès que je t'ai vu de loin avec le micro, je me suis dit, tiens, c'est lui, c'est France Inter, là.
Exactement.
Ok.
Bon, ça va bien?
Ouais, ça va bien. C'est jamais bien comme ça. C'est une situation est délicate. Hein.
Ouais.
Voilà. Ouais.
Vivre, enchanté.
Leur usine part en Pologne. En France, une heure de travail coûte 38 euros à une entreprise. Alors qu'en Pologne, c'est 5 fois moins. Des dizaines d'emplois dans l'informatique chez IBM... ou encore la production d'automobiles de Citroën ou Renault, tous ont choisi l'Europe de l'Est.
Il y a notre ami
Bonjour
Daniel.
Messieurs, enchanté.
Bah déjà j'ai 43 ans de maison ici là. Hein.
et je suis secrétaire administratif du comité d'entreprise. Je suis à la retraite, hein. Mais je suis aussi et surtout animateur de la section syndicale CGT. Voilà, voilà.
Et vous, comment je vous présente ?
Monsieur Abadi Hassan, délégué syndical CGT depuis 20 ans.
Moi, en fait, j'ai entendu parler de votre mobilisation lors de la manif du 12 septembre.
Le 12, parce qu'on était nombreux avec les t-shirts, sans péril, non licenciement boursier.
Et très remonté aussi.
Ah oui, ouais. Je suis de ceux qui manifestent et qui protestent, comme disait Ferrat. Toujours.
Là, on est dans ce qui reste de zone industrielle derrière la gare d'Argenteuil.
Ouais, il reste un petit bassin. Le petit bassin, il reste sans périte, Otis. Givaudan qui est derrière. Ils ont déjà délocalisé une partie. Et Otis, apparemment, ils vont partir en 2018. Ils vont déménager. Sans oublier qu'il y a un projet immobilier en face. Voilà.
Donc tout ça, c'est la désindustrialisation qui continue.
Exactement. Ouais.
Voilà, pour te donner une idée de la dimension du groupe sans périte. Sans périte, c'est 22 usines dans le monde. C'est 9000 salariés. D'accord ? Ah, c'est pas un petit, hein ? Alors nous, on fait partie de la division bande transporteuse. Et il y a 4 usines dans le monde. Donc Argenteuil, la Pologne, l'Inde et la Chine. Dernièrement, ils ont acheté la Chine. Et puis, ils nous ont bouffé tout le créneau, machin. Et les commandes, ils les envoient là-bas.
Parce qu'en Pologne, ça coûte moins cher.
Ah ben forcément. Et les yeux dans les yeux, le directeur de l'époque, il me dit, mais monsieur, nous, pour un salaire ici, on a 3 Polonais. D'accord ? Et on a 8 Chinois.
8 Chinois.
300, ouais, 8 Chinois.
Voilà ce que vous, voilà ce que vous valez ou voilà ce que vous coûtez ?
Voilà ce que vous nous coûtez.
Comment voulez-vous rivaliser entre les Polonais et nous ? Ici, le petit salaire, c'est peut-être 1500 euros. Là-bas, le gros salaire, c'est 700 euros. On ne peut pas virer les gens comme ça. C'est pas possible. C'est pas des Kleenex. Vous savez, quand je suis rentré ici, ça fait 16 ans que je suis là. Quand je suis rentré ici, j'ai vu que des gars, ils avaient 25 ans d'ancienneté, 30 ans d'ancienneté. Ça se fait plus, hein. Ce qu'ils ont fait, eux, sans périte, ils ont pris tout le savoir-faire, les licences, enfin tout ça. Grâce à ça, ils ont acheté la Pologne. Encore une fois, grâce à ça, ils ont acheté la Chine, l'Inde. Et nous, pendant ça, là, aucun investissement, rien. Vous allez visiter l'atelier, vous allez comprendre. On a encore, c'est germinal.
Une page qui se tourne définitivement dans ce petit coin de la banlieue, juste au bord du précipice, avant le grand saut dans la précarité, avant le grand saut vers les parcours atomisés d'individus industriels, entreprises jetables. Comment s'est vécu ces voies de la fierté, du bleu, du sentiment de classe juste avant la disparition, alors que pas grand monde ne se bouge pour les aider, le Grand Paris est intéressant, l'on peut construire sur ces zones-là. Alors que pendant ce temps-là, l'investisseur, lui, trouve et rétribue généreusement ses actionnaires. Leur usine part en Pologne et eux, ils restent là.
Leur usine part en Pologne.
Parce que là, je suis obligé de regarder la machine. C'est du caoutchouc qui schlingue, il pue. Ça sent fort.
Là, faut qu'on recule. Ah, il y a la machine qui monte. Cathédrale, cette énorme usine qui fait plusieurs centaines de mètres de long, avec les vieilles lampes tout en haut au-dessus de la baie vitrée, la vieille horloge à aiguilles, tout a l'air un peu figé dans le temps. Attention, commande à distance, même les panneaux que je vois là datent de Mathusalem, et pourtant ces énormes rouleaux de tapis roulants s'accumulent et se continuent à se fabriquer.
Moi je pense ça comme tiens, mets le laser, t'as vu, pour pas qu'elle recule. Ouais, juste, tu coupes. Non, juste, voilà, tu le coupes. Attends.
La machine qui repart, là ?
Alors ça, c'est une presse, c'est un four. Si tu veux, ça, c'est ma pâte, c'est la farine. Ouais. Et je la cuis. C'est exactement ça. C'est le même principe, sauf que là, c'est du caoutchouc.
Et alors là, il y a encore des commandes qui partent ? Il y a encore de...
Plein.
Il n'y a pas de patron aujourd'hui, mais vous continuez à faire tourner les machines.
Ben, je sais pas comment on peut appeler ça de la conscience professionnelle, mais voilà quoi. Jusqu'à ce que le Titanic il coule. Malheureusement. Et là, voilà, c'est... Moi, c'est Fétive.
Fétive ? Ça fait longtemps que vous bossez là ?
Moi, ça fait 14 ans. Ben, on va dire que l'humain, il le laisse de côté. Hein. On est passé dans une époque de globalisation, comme je disais à mes collègues. Quand vous vous investissez dans des actions, une fois que l'action elle stagne un an, deux ans, au bout d'un moment, les actionnaires veulent des retours sur investissement. Et nous, comme par hasard, l'action sans périte, à l'annonce de notre fermeture, elle a pris quelques points.
C'est vrai ?
Ben oui, c'est vrai.
Vous savez, on sera ni les premiers ni les derniers. Même les collègues, on n'est pas sortis censés, on a compris ce qui se passe. Voilà, les sociétés n'arrêtent pas de fermer, tous les gens y partent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont facilité justement l'Europe capitale. Notre patron, celui qui est en Autriche, il est venu nous voir, il nous a dit clairement droit dans les yeux, hein, 33% d'imposition en France, 8% en Pologne. On ne fait pas le poids. Quand on ne fait pas le poids. Et là, ça y est, on est sacrifié sur l'autel de la finance. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, il n'y a pas autre chose. Et je le redis, je comprendrai que ma société, ça va pas, voilà, bon, c'est vrai, il n'y a plus de comment. Allez là-bas, allez au bureau, il y a 100 dossiers qui nous attendent. C'est ça le plus gros gâchis. Moi, pour moi, il y en a du boulot. On nous retire notre outil de travail, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas autre chose. C'est une volonté délibérée de désindustrialiser. Voilà. La France, voilà, ça veut dire... voilà.
C'est que le mot est dur à dire, mais la réalité, vous la connaissez très bien.
Ouais. Avec leur système, ils montent les peuples les uns contre les autres. Hein. Je te le dis, même si t'as rien contre le... Mais voilà, moi, je me retrouve au chômage.
C'est ça.
À cause du polonais. Pourquoi ? Parce que la main d'œuvre elle est moins chère. C'est aussi simple que ça. On nous avait prévenu hein, du plombier polonais. Hein. Et à l'époque, je me rappelle, hein, ils passaient ça sur le coup de la dérision. Ben, on est plein dedans. J'ai été victime du plombier polonais. serial killer du travail.
Exactement.
Je te jure.
Allô, l'artiste ? Affirmatif. Oui, un petit billet sur un chantier, là, ça t'intéresse ? Affirmatif.
Oui, sous l'évier, ménagère en danger, faux sceptique, la panique, une pelouse à bichonner. Encore du boulot pour SOS, super ouvrier. Chez le beau-frère, démarrer la camionnette, choper le chef chez sa mère, et l'équipe sera complète. Boucler les ceintures, allumer le starter, direction le chantier.
Dans les années 70, il y avait 600 personnes qui travaillaient ici. 600 personnes dans ce site-là, tu vois là, 600 personnes. On est passé à 64 personnes, divisé par 10. Les machines, c'est toujours les mêmes.
C'est les mêmes qu'à l'époque.
On est passé de 600 à 64 personnes.
Ça, c'est ce qu'on appelle des gains de productivité.
Exactement, les gains de productivité. Excuse-moi pour le... Des ouvriers Kleenex, on a fini avec vous et on vous jette à la poubelle. C'est ça, le Kleenex, quand il est rempli, tu le jettes. On va chercher un autre. Et on va le chercher où ? On va le chercher ailleurs.
En Pologne ou en Chine ?
Ah, c'est ça, en Pologne ou en Chine, là où la main-d'œuvre est moins chère.
Parce que là, ce qu'on vous a proposé pour l'instant, c'est des reclassements au sein du groupe.
Oui, reclassement au sein du groupe. On a le choix entre la Pologne et la Chine.
Comment on vous a proposé ça ?
Oui, Pologne et la Chine.
Ah, donc vous, Omar, on vous a dit, alors tu préfères quoi ?
Tu vas là ou tu vas dehors ? Qu'est-ce que je vais faire en Pologne ? Le salaire, c'est pas le même, déjà d'une.
400 euros à peu près pour un SMIC.
Voilà, plus la barrière de la langue, plus le déménagement, plus le déracinement d'ici. Qu'est-ce que je vais faire en Chine ? Mais ils travaillent 6 sur 7.
On vous a vraiment proposé d'aller bosser en Chine ?
Oui, ils sont obligés de le proposer, il est dans le PSE. Parce que s'ils ont acheté la Pologne, c'est grâce à Argenteuil. S'ils ont acheté l'Inde, c'est grâce à Argenteuil. S'ils ont ouvert une usine en Chine, c'est grâce à Argenteuil. Mais tout ce savoir-faire, il est parti d'ici.
Et on prend tout ce qu'il y a à prendre
exact. Pour
développer ailleurs,
oui. Où
c'est moins cher.
Et on fait... C'est le profit. C'est le profit, c'est exactement ce qui se passe de nos jours, c'est ça. Délocalisation pour avoir plus de profit. Moins de charges salariales et plus de gains. Regarde Goodyear, regarde Moulinex, on prend toutes les GMS qui sont en train de se battre aujourd'hui. Où est-ce qu'on va trouver le travail si toutes les usines y ferment maintenant ? Où est-ce qu'on va postuler ? Nulle part. Et après, ils disent oui, c'est des assistés, ils ne veulent pas travailler, on est des fainéants, on est des cyniques, on est des extrémistes.
Ça vous a pas plu, là, le coup des fainéants ?
Non, fainéants. Tu vois, toi, quelqu'un qui se lève à 5h du matin, c'est un fainéant ? C'est quoi, c'est le plaisir qu'il fait réveiller à 5h du matin ? Non, c'est parce qu'il est obligé de se lever à 5h du matin. Alors, quelqu'un qui se lève à 5h du matin, il finit à 22h30, il rentre chez lui, il est 23h, j'appelle pas c'est un fainéant ou un cynique, hein. C'est un homme brave, c'est de la bravoure, ça. C'est des braves qui vont chercher leur pain.
tout ça.
Oui, je vous dis, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vous paye un café. Vous
faites... Avec plaisir, ouais.
Non, mais quand même, la moindre des choses.
Ouais,
mais... Voilà. Donc, bien sûr, le moral des gens, ils sont pas bons.
Chef d'entreprise, un philosophe en action.
Il était une fois les patrons.
Les patrons des philosophes en action. Voyons, reprenons.
Un documentaire d'Anne Kounvari.
Jusqu'à la crise de 73, les patrons avaient beaucoup concédé aux salariés. Ils avaient augmenté les salaires, amélioré les conditions de travail, accepté les syndicats, sous la pression de l'État bien sûr. Nous vivons d'autres temps. Dans les entreprises, le stress règne. Les patrons vissent les salaires, exigent toujours plus, délocalisent, licencient. À nouveau, ils règnent en maître, y compris sur les États. Mais ils ont fort à faire avec une puissance nouvelle, le monde de la finance.
Café ?
Ouais, merci, je viens.
Oui, ça fait 27, 28 ans que je suis là.
Ah
je
oui.
Mais sur 60 ans, je crois que c'est les carottes sont cuites, là, c'est terminé. Hein. On s'est donné à fond, on a esquinté notre santé, on est usé. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on retrouve comme reclassement à notre âge? On a tout le temps travaillé dans le caoutchouc, on n'a fait que ça. Voilà, je suis parmi les anciens. Voilà. Délocalisation. Ils nettoient. Et on dégraisse, comme on dit. Les actionnaires sont toujours de plus en plus gourmands.
On diminue les salaires, on casse l'art du travail, la façon de travailler, le savoir-faire. Puis ils veulent tout ubériser, tout, ils veulent que les actionnaires vivent bien. Je ne sais pas combien de gens ils devront tuer pour faire du bénéfice, mais grand bien leur fasse, quoi. C'est comme ça. Mais je pense que non, les carottes sont cuites, la messe est dite et les jeux sont faits. C'est à moins qu'il y ait de grands mouvements populaires. Alors maintenant, personnellement, je pense que nos anciens de 1936, non seulement ils se retournent dans leur tombe, mais ils sont, c'est un tonneau qu'ils ont à la place du cercueil, tellement ils se retournent. Le cercueil, il tourne autour. C'est un tonneau. Et le but, c'est d'arriver à tout le monde, l'Europe entière, 500 euros par personne et par mois. Il faut dire merci. Alors maintenant que ces gens aient un yacht de 175 mètres à la place de 150 mètres, ben, grand bien leur fasse aussi. Mais enfin, il faut qu'ils sachent que pour obtenir ça, ils tuent des gens. Ils cassent des familles. Voilà.
C'est ça. C'est que ce qui arrive à cette société, à cette usine ici...
C'est la France en tout petit.
C'est ça raconte.
C'est du microcosme. C'est un raccourci.
C'est un raccourci de ce fossé qui se creuse dans la répartition des richesses entre le travail et le capital.
Voilà. Oui, mes mains. Bon, à travers le micro, on ne les voit pas, mais elles sont sales. Ouais. Je travaille de mes mains. Elles sont sales.
Je crois que c'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils ne veulent pas savoir. Oui. Ils s'en foutent de nous, en gros.
Oui.
La preuve.
C'est plus simple d'être trader et de se promener en tweed, et bien sûr.
Pour eux, on n'est rien. Hein.
Pourquoi ces technocrates ont été décidés que les gens en bleu avaient moins de valeur que les autres? Ça suffit maintenant.
Ah merde, vous avez perdu votre pièce sous la machine à café. Là, vous jouez à quatre pattes.
Non, c'est son patron. Il prie. C'est son périte.
Il prie son périte à quatre pattes. C'est bon, vous avez retrouvé la pièce?
Ouais, merci.
Bonjour.
Ça va bien? En gros, je crois que sa femme, elle est au chômage. Sa femme, elle est au chômage, je crois.
Jusqu'à maintenant?
Ouais, ouais.
Il annoncera à la fin.
Voilà.
À la fin, quand elle aura le chèque.
Il a dit, ouais. j'ai pas dit à ma femme.
Il a dit, j'ai pas dit à ma femme.
Pourquoi on est en train de fermer? Et ça fait depuis le 30 juin, ça fait déjà deux mois et demi.
On lui a parlé, Jean-Luc et moi, on lui a parlé, on lui a dit, maintenant, tu es ici. Puis ta femme a reçu la lettre de licenciement. Et puis, elle est pas au courant. Comment que ça se passe? Tu lui as dit, c'est trop lourd pour toi, faut te décharger, faut parler à la maison.
C'est pas évident. Hein. Garder ça pour soi pendant 2-3 mois, vivre avec ça, mais c'est lourd. Personnellement, j'en ai parlé dès le début, avant d'abord. J'en avais parlé à ma femme, mais franchement, j'ai un problème de sommeil.
On dort pas.
On dort
à 3h du matin, je suis debout.
2-3 fois dans la nuit, je me réveille facile.
C'est au travail. On est là.
Il y en a eu, ça.
Pour le moment, on est ensemble. Mais demain, on est plus là.
Une fois qu'on sera tous...
Juste le week-end, quand tu le passes le week-end? Juste le week-end.
Tu gomberges, c'est normal.
Tu gomberges.
Ah ouais, c'est normal. En gros, tu perds ta dignité. En gros, tu perds ta dignité.
Tu perds ta dignité, tu perds ta vie, en fait.
Parce que quand tu ne travailles pas, tu n'es pas digne. Voilà. Tu te sens un fardeau sur la société. Toi, tu veux travailler. c'est ta sueur qui ramène ton pognon. Et t'es fier. Mais là, ta fierté, il te l'emmène par terre. Voilà.
Tu ne te sens plus exister, au fait.
On sort du machine à café.
Venez, je vous ai...
Ah, d'accord. Bon, à tout à l'heure.
Ouais, merci.
Ça, c'est des bobines de métal, c'est des câbles. Parce qu'on fait des bandes transporteuses avec du câble. C'est vraiment solide, c'est pour les grosses industries. Donc on avait un vrai savoir-faire, on était les seuls en France à faire ça. Ils nous l'ont piqué vite fait, bien fait.
Et là, c'est les bureaux de...
Ouais, c'est des bureaux.
Parce que vous, les propriétaires de cette usine, les Autrichiens, vous les avez jamais vus?
Jamais. Au début du plan social, il y en a un qui est venu, un des grands directeurs. En fait, il leur a dit clairement, je ferme, je ferme. En fait, on ferme, on ferme. Faites ce que vous voulez, mais on ferme. Voilà. Il n'y a pas d'autre issue possible. Voilà. Mais ils ne viennent pas, en fait. Ils ne viennent jamais.
Ils n'ont pas besoin de venir?
Non, ils n'ont pas besoin. Les mecs, ils n'ont plus d'âme. Comment tu vas sacrifier des gens avec qui tu as travaillé? Je comprends pas.
Passer par là. Je fais attention, là, on passe entre les machines. Une seule machine qui tourne, un seul petit bruit qui vient ponctuer le silence dans cette grande usine. Pas déserte, puisque tous les salariés sont là. L'équipe de l'après-midi a pris remplacer celle du matin. Mais tout le monde traîne, discute, surveille les machines. Juste une qui fait comme un métronome en égrenant le temps qui passe dans l'usine au ralenti.
France Inter, 17-9. Nicolas Demorand.
Il est le penseur du macronisme économique. Bonjour Philippe Aguillon.
Bonjour.
Professeur au Collège de France.
Oui.
Les bénéficiaires d'emplois aidés deviennent donc chômeurs à court terme pour faire repartir la machine économique et espérer à plus long terme faire baisser le chômage. C'est ça le raisonnement?
Oui, enfin, vous appelez ça chômeur. Moi je vois ça différemment. Je vois une organisation de la société où on passe, si vous voulez, on est en période, on travaille, et ou en formation. Vous voyez ce que je veux dire? J'appellerais ça plutôt formation.
Vous préférez et je vois formation plutôt une organisation.
Absolument. Eh bien, on alterne entre travail et formation.
Donc, je ne suis pas au chômage. C'est en,
oui,
je suis
en formation.
Il y a 7 millions de Français en formation.
Bien, mais je ne dis pas chômeur. Je dis, vous êtes en formation et je vous subventionne pour être formé. Il ne faut pas qu'il y ait un Français qui soit ou sans emploi ou sans formation. Je pense que vraiment, il y a l'idée, je dois être ou en emploi ou en formation, sauf si je suis incapacité. On appelait ça le contrat d'évolution dans la commission Attali, où j'ai connu Macron.
On n'est plus dans l'humain, là. T'es de la viande. Excusez-moi, mon vestiaire, c'est un cercueil, quelque part. Vous comprenez? Ah ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? Tu vas crever au taf, et même quand tu fais, c'est pas assez. Attends, on a tout donné. Tu veux quoi de plus?
Mais tout le monde reste là, en fait, parce qu'on n'a pas grand-chose à faire. On sait pas quoi faire, on discute, on essaie de se remonter le moral, et on essaie de préparer les prochaines actions.
Exactement. On s'assoit là, et on discute, on voit qu'est-ce qu'on peut faire. C'est ça pour l'instant.
Cette image de la signature très officielle de ces 5 ordonnances qui comprennent 36 mesures.
À l'issue donc du Conseil des ministres de ce jour, les 5 ordonnances relatives à la réforme du droit du travail viennent d'être signées. Elles consacrent un engagement de campagne important et une réforme en profondeur inédite du marché du travail, indispensable à notre économie et notre société.
Vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe ici en ce moment. Votre absence vous en épargne et j'aime autant. La classe ouvrière s'est enfuie.
C'est dur, mais on faut rester digne.
La classe ouvrière s'est enfuie.
On l'a décapité, c'est tout, stop.
J'ai rencontré cet homme âgé qui travaille toujours à l'usine. Il m'a dit, tu sais, il reste encore des ouvriers, mais il n'y a plus beaucoup de classe tout en haut. Et en bas, plus aucun sentiment d'appartenance. Encore des ouvriers, mais plus grand chose de nos valeurs.
c'est par là.
Patrick, le CE, carreau d'escalier, pas sur le CE.
Ça va ? Super, merci. Bonjour.
Ah, oh là là. Je suis en plein travail pour le CE. Je m'arrête.
Vous êtes Pascal, c'est ça ?
Je suis Pascal, voilà, exactement.
Et là, on est au CE ?
Voilà, exactement, vous êtes dans la salle du comité d'entreprise et du CHSCT, donc de la DUP.
Voilà, instance qui, prochainement, avec la loi travail, vont être toutes fusionnées.
Voilà, exactement, tout à fait, c'est ce qui va se passer.
La même loi travail qui va autoriser les licenciements boursiers, c'est-à-dire une multinationale qui réalise du profit à l'étranger peut fermer une usine en France.
Une usine au niveau local. Nous sommes bien d'accord sur ce principe-là, malheureusement.
Qui va aussi plafonner les indemnités de licenciement.
Tout à fait, absolument.
Tout un tas de mesures pour lesquelles votre société est en première loge, quoi.
Ah bah absolument. Ce qui nous arrive aujourd'hui et ce qui va se passer au niveau de la loi de travail va jouer et compter énormément sur la situation d'aujourd'hui dans notre propre société. C'est dramatique.
Voilà. Parce que, si j'ai bien compris, c'est l'illustration parfaite de ce qu'est un licenciement boursier.
Absolument, nous sommes absolument dans le cas d'un licenciement boursier, une délocalisation vers un site qui, apparemment, pourrait plus faire de profit que nous. Voilà. Mmh. Moi, quand je suis arrivée, vous voyez, je suis arrivée il y a 29 ans. J'ai 29 ans d'ancienneté et tout est parti au niveau de l'usine de production polonaise. Et aujourd'hui, ben, nous retrouvons sans rien. Voilà, c'est nous les dindons de la farce. Voilà.
Allez-y, vous avez un courrier à faire.
Il faut qu'on avance.
Allez-y.
C'est ce que je vous ai dit, faut qu'on avance.
À la préfecture, vous écrivez.
Voilà, à la préfecture, et parce que la situation et le climat s'est tendu par rapport aux propositions de la direction. Donc hier, les salariés sont montés pour manifester leur mécontentement, donc ça a été dur.
Il y a eu un peu une prise à partie de la direction.
Non, oui, mais ils ont vidé leur sac. Donc, il y en a avec lucidité, il y en a avec calme, il y en a avec pleurs, il y en a avec agressivité, sans que ça aille loin, quoi. Et chacun a voulu s'exprimer. Donc, maintenant, ils retournent le truc. Ils se victimisent. C'est eux les gentils, c'est nous les méchants.
Parce que vous avez été trop échauffé.
Voilà, trop échauffé. Donc, ils ont commencé à écrire à la sous-préfecture. Donc, nous, on fait la même chose, là. Pour qu'ils aient les deux versions. Voilà. Donc là, on est en train d'écrire. Nous, ce qu'on demande à aujourd'hui, c'est un décideur.
Je me tiens à votre entière disposition afin que vous sachiez les tensions qui traversent notre site. Je me tiens à votre entière disposition pour un éventuel rendez-vous. Vous agréez.
Ça, t'as rajouté ça ? T'as rajouté que ça ?
C'est tout.
Le mail ?
C'est tout.
D'accord.
Je vous laisse finir la lettre, je vais retourner.
Absolument, tout à fait, on se retrouve sans rien, on est les dindons de la farce. Sauf que c'est pas une farce. Les ordonnances sont applicables dès aujourd'hui et ça va faciliter ce genre de délocalisation et de licenciement boursier. Il va falloir essayer les carottes crues.
Les investisseurs, ceux qui ont misé des actions dans cette entreprise, se sont vus remettre 40 millions d'euros au cours des deux dernières années. Et les salariés, la première offre qu'il leur a faite dans le PSE, c'est 5000 euros. Alors vous pouvez les retrouver. Tous les jeudis, ils organisent des jeudis de la colère devant leur usine, 10 rue des Chartiers, juste derrière la gare d'Argenteuil. Rassemblement de soutien, débrayage et merguez à partir de 11h30.
On continue notre randonnée casse-croûte merguez et carottes crues dans la besace avec les marcheurs du mouvement social parce que la marche, c'est bon pour la santé.
Ouais, et c'est certainement meilleur pour la santé que le régime sec auquel l'hôpital public est soumis depuis 15 ans. À force de réformes au forceps, le personnel hospitalier est à bout. Usé, crevé, lessivé et les suicides partout se multiplient. Car l'hôpital public, c'est un peu comme l'usine Semperit. Même s'ils font des bénéfices, on supprime des postes. Même quand l'équilibre est à matin et qu'on fait toujours et encore des bénéfices, les suppressions de postes continuent. Et l'hôpital européen Georges Pompidou en est un parfait exemple. C'est le NEC le plus ultra des hôpitaux parisiens. Le vaisseau amiral où les innovations et les exploits se succèdent. Un hôpital bénéficiaire de 3 millions d'euros, conçu et pensé dans sa structure pour éliminer les gaspillages. Bref, l'avenir des hôpitaux. Sauf que derrière la vitrine de la performance économique se cache la souffrance humaine. Deux suicides en un an. Et c'est de là donc que nous allons partir avec le personnel hospitalier pour rejoindre l'hôpital Necker. C'est la marche des hospitaliers et c'est parti.
Eric, mets la banderole devant. La banderole devant. Voilà.
Dans nos 15 jours de marche, on a fait en sorte de goupiller tous les hôpitaux où il y a eu des suicides. 6 suicides reconnus. Depuis un an, la mise en place du plan Hirsch, le directeur de l'assistance publique. Et donc la dernière journée, ça sera le lundi 2 octobre, devant l'avenue Victoria, pour dénoncer la mise à mal des hôpitaux suite à l'organisation du temps de travail.
Oui, non, oui, bonjour.
Et vous préparez les pancartes qui va commencer tout à l'heure.
On voit une banderole, une pancarte. APHP en danger, marche des hospitaliers.
Donc l'hôpital est divisé en quatre secteurs qui partent de A, B, C, D avec des ascenseurs. Il y a 8 étages à l'hôpital.
Bonjour.
Donc désignez dans le couloir. Voilà, on va passer vers la radio pour vous montrer. Là, il y a le scanner, l'IRM et tout au bout, il y a l'échographie. Alors
c'est
ça, c'est, ça c'est encore le côté humain de Pompidou, c'est-à-dire qu'on a supprimé en grande partie les agents hospitaliers. C'est-à-dire que ça, ce sont des dossiers qui sont transportés par des valises. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'humains.
Donc c'est des rails.
C'est des rails.
Qui sont en haut, au plafond, voilà, et qui hop, se baladent dans tout le pays. Voilà. Circulent tout seuls. Voilà, c'est Jacques Tati, quoi, on est en temps moderne. Alors vous m'avez pas dit de vous appeler comment?
Je m'appelle Pascal Spadoni. Je suis secrétaire de la section Georges Pompidou.
Section Sud.
Tout à fait, section Sud Santé.
Là, il y a tous les lits voilà. Qui sont disposés dans le couloir.
Parce que là, vous êtes dans un bloc opératoire qui tourne énormément. Où on fait le rachis, entre autres, la chirurgie digestive, plusieurs spécialités. Et en plus, dans tout ça, vient s'imbriquer des polytraumatisés. C'est un bloc opératoire qui tourne énormément. Mais en rognant de plus en plus sur la qualité de vie des agents de l'assistance publique. Ne soyons pas surpris qu'il y a donc de la souffrance au travail, qu'il y ait des burn-out et qu'il y ait eu malheureusement des suicides.
Voilà. Ici, il y en a eu des suicides.
Il y en a eu exactement déjà deux. Donc c'est catastrophique. Il y a eu le professeur Ménien et il y a eu notre infirmier qui s'est défenestré récemment.
C'était au mois de février. Ouais.
Tout à fait. Emmanuel.
L'infirmier âgé de 35 ans, père de 2 enfants, n'était pas en service lorsqu'il s'est suicidé. Mais c'est bien depuis son lieu de travail, vêtu de sa blouse, qu'il a décidé de mettre fin à ses jours en sautant du 8e étage de l'hôpital Pompidou. Un geste incompréhensible selon sa direction. C'est le deuxième suicide en 14 mois dans cet hôpital parisien. Les syndicats ont demandé à ce que le décès de leur collègue soit classé en accident du travail.
Pompidou continue à faire des bénéfices, mais on continue à rendre du personnel.
Voilà. C'est un des seuls hôpitaux qui n'est pas déficitaire,
voilà,
même en excédent.
Qui est excédentaire. Et on nous annonce encore pour l'année prochaine des rendus de poste. Il faut arrêter ça, l'hôpital n'est pas une entreprise. Stop.
Tout le personnel de santé sud est sorti sur le parvis de l'hôpital Georges Pompidou et la marche est partie. C'est parti ?
C'est parti.
Je me mets loin, si c'est un cortège en fumeur.
Non, c'est...
Vous appelez comment ?
Louis. Moi, je suis représentant du personnel sud à Necker.
Et vous étiez infirmier ?
Infirmier.
Depuis combien de temps ?
20 ans.
20 ans.
Voilà.
Alors vous avez vu le changement, parce que ça fait à peu près 20 ans en fait que l'hôpital est soumis à des réformes drastiques.
Les réformes ont été drastiques. Elles ont été ouvertes, c'est vrai, dans une première réflexion à partir du milieu des années 2000, avec cette fameuse loi HPST qui...
Hôpital, santé, territoire, patient.
Voilà, qui étaient les prémices dans cette organisation territoriale, non pas de rationaliser les soins comme elle avait ambition, mais de rationner l'offre de soins. Et ensuite... Chose qu'ils ont mis dedans, c'est la tarification à l'activité.
À partir de 2004, à peu près.
ou auxquels, en fin de compte, l'efficacité s'est mesurée à l'efficience budgétaire. Et aujourd'hui, on n'est plus des soignants, mais des producteurs de soins en rentabilité. Donc, il y a le tri des patients, un soin non plus basé sur la qualité, mais sur ce qui rapporte à l'hôpital.
Donc ça, ça fait presque
10 ans
que ça a été mis en place. On en voit les conséquences aujourd'hui.
Les conséquences, parce que évidemment, ça s'est accompagné des diminutions d'effectifs, des diminutions de nombre de personnel au lit du patient, et aujourd'hui qui s'aggrave encore, puisque chaque année, même sur Necker, un établissement dont on parle avec un budget qui est à l'équilibre, voire meilleur qu'à l'équilibre, on continue de supprimer des postes. Et là, on porte atteinte à la sécurité des soins des patients. Et Necker est depuis plusieurs années dans l'équilibre. Et on
comme Georges Pompidou.
Voilà. Et on nous demande des efforts encore plus forts aujourd'hui.
Donc c'est pas juste être à l'équilibre, c'est faire des bénéfices.
Voilà. Et nous, on était en plus dans un hôpital qui était justement excédentaire. Et les efforts cette année, ils vont de ce que la direction nous impose, c'est de rendre encore 60 postes cette année.
À l'hôpital, il y a ton travail. À l'extérieur, il y a trop de chômeurs. Embauchez ! Embauchez les chômeurs !
Marie d'Or, 15e arrondissement. Pourquoi cette marche, elle a lieu maintenant là ?
En fait, on voulait la faire juste après que les réformes et les ordonnances de Macron soient établies, quoi. Ce qui va se passer, en tous les cas, nous, pour les hôpitaux, on est contre. Parce que rien ne nous arrange, rien n'est dans notre intérêt, rien n'est dans nos besoins réels sur l'hôpital. Donc je pense que c'était le moment de le faire, quoi.
Macron, il a encore annoncé des suppressions de postes pour
notamment
les hôpitaux.
Des suppressions de postes, et puis même dans les projets qu'ils ont pour les hôpitaux d'ici 2019 sur les supra-GH, on est déjà en GH, en groupe hospitalier. Avec,
c'est le principe de regrouper des hôpitaux, mutualiser.
C'est ça, exactement, c'est la mutualisation, regrouper des hôpitaux, supprimer du personnel. Ça fait des années qu'on alerte notre direction sur les conditions de travail. On n'a plus d'effectifs, on travaille à une cadence où le personnel, d'ailleurs, il est épuisé, il est fatigué. Donc il y a un moment donné où il faut qu'il se pose des questions. On veut bien de l'activité, mais alors mettez les effectifs qu'il faut pour que l'hôpital, il fonctionne. Et puis un hôpital, j'ai envie de dire, c'est un hôpital public, c'est un service public. On n'est pas une clinique, on n'est pas un hôpital à but lucratif, quoi. On n'est pas là pour être rentable. On est avec des patients, avec la santé, avec des êtres humains. Donc j'ai envie de dire qu'au lieu de déshumaniser les hôpitaux comme ils font actuellement et enlever personnel soignant au pied du malade, quoi, je veux dire, et à un moment donné, on fait vraiment des trucs, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Et après, moi, quand je vois le personnel pleurer et qui nous disent nous on n'en peut plus, on rentre chez nous, on n'a plus envie de s'occuper, on n'est plus capable de s'occuper de nos enfants à nous ou de notre famille. C'est plus possible en tous les cas de travailler comme ça, parce que je pense qu'on est arrivé au bout du bout. Et on vend pas des pots de yaourt, qu'on n'est pas une industrie, on n'est pas l'hôpital, c'est pas une marchandise, quoi. Et à un moment donné, c'est de l'être humain, c'est de l'hospitalité. Moi, j'invite franchement à retrouver ce mot de hôpital. L'hospitalité, ça a des valeurs, ça a une éthique. Et je pense qu'on est complètement à côté, là. Et ça fait vraiment peur, c'est vraiment inquiétant.
Vous appelez comment ?
Sabrina Rouinsart.
Rejoignez-nous à la marche des hospitaliers pour la reconnaissance, la dignité, la fierté d'être au service des autres, à la protection de leur bien-être. Nous ne sommes définitivement pas en marche, mais nous allons marcher. Vive les marcheurs des hospitaliers !
I do believe in democracy. And democracy is not in the streets.
Je crois en la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas la rue. Il y a une élection, je suis au clair avec ça. Peu m'importe d'être impopulaire. Mon pays doit être réformé.
10 à 12 000 manifestants, notamment à Paris selon la police, 35 000 selon les syndicats, les personnels hospitaliers, les assistantes sociales notamment sont descendus dans la rue pour dénoncer le faire toujours plus avec toujours moins, comme le disaient les slogans. Mobilisation particulière devant l'hôpital Cochin à Paris. Le matin même des manifestations, une infirmière en effet s'est suicidée sur son lieu de travail. Une femme de 45 ans qui travaillait depuis 20 ans pour la PHP dans des conditions dénoncées depuis 2 ans par les syndicats.
En marche, c'est reparti.
Ouais, c'est reparti.
Les conditions de travail à l'hôpital public, de comment on s'occupe des patients aujourd'hui, le temps qu'on a plus pour rester à discuter avec le patient, à prendre soin. Voilà, c'est pour ça, c'est ce qu'on dénonce avec une grande marche de plusieurs jours. Donc on part d'hôpital en hôpital. Les hôpitaux de l'assistance publique.
Vous avez affaire, hein.
Oui. Parce qu'on a trop laissé faire aussi. Donc et maintenant.
Oui. Voilà. Maintenant on paie. Voilà, on paie. Exactement.
Il ne faut pas laisser faire.
Cette marche, c'est aussi pour interpeller les gens, là, comme la dame.
Absolument.
Les habitants et leur expliquer ce qui se passe.
C'est aussi pour interpeller, puis aussi interpeller le gouvernement et qu'on parle de ces conditions de travail au lit du patient. On insiste sur le lit du patient, est-ce que le devenir de l'hôpital public.
J'ai 90 ans, je pourrais rentrer à l'hôpital.
Ils ont raison d'aller marcher, eux ?
Ah bien sûr qu'ils ont raison. Bien sûr, bien sûr. Il faut qu'ils défendent leurs droits, eux aussi. Absolument.
Au revoir, madame, bonne journée.
Au revoir, merci.
Aucune hésitation. Non. À ta réforme bilan.
À l'hôpital, il y a ton travail. À l'extérieur, il y a ton chômeur. Embauchez les chômeurs.
On va falloir couper les poteaux parce que parce que là ça va pas du tout. Attention.
C'est risqué comme genre de marche. Une fois sur deux, on risque de se prendre un poteau.
Oui, aujourd'hui, il y a plus d'obstacles aujourd'hui.
Vous avez fait les autres marches aussi ?
Oui, depuis lundi, on y est.
Bonjour. C'est une marche pour défendre l'hôpital public.
Ah oui, on est d'accord. Hein.
Vous êtes d'accord ?
Ah bien sûr. Moi, je pense que non seulement il faut défendre l'hôpital public, et en plus, il ne faut pas chercher à avoir de nouvelles lois tout le temps, parce qu'on est en train de changer la structure de la France et c'est pas bien.
Vous travaillez
Nous, j'ai le magasin en face.
Ça vous arrive d'être allé à l'hôpital pour vous ?
Ah oui, bien sûr. Ils sont bien, ils sont un peu fatigués quand même. Il y a toujours un manque de personnel. Alors l'ensemble, c'est bien, on est content quand même. On a un bon service. Et je suis d'accord, il faudra défendre toujours l'hôpital public. Ça a toujours existé et ça devrait exister.
Est-ce que vous pensez que l'hôpital, c'est un service public qui doit être géré comme un service public ou est-ce qu'il faut appliquer les règles de l'entreprise, faire des économies ?
Non, pas du tout. Public.
Ça vous dérange pas de payer la sécurité sociale pour être bien soigné ?
Non. C'est la seule chose qu'on a en France pour l'instant, en premier. Malheureusement, depuis quelques années, on est en train de créer des nouvelles lois au profit des entreprises qui sont assez grosses déjà, qui gagnent de l'argent. Et petit à petit, on oublie les gens. Voilà, c'est tout.
Merci, monsieur. Je rattrape le cortège.
Je vous en prie, bonne journée.
Merci.
Ne te laisse jamais employer, utiliser, jeter, tu vaux mieux que ça, tu sais. Ne te lasse jamais de t'indigner, toi qui es libre de penser, prends la plume, prends l'épée. Tu es un offreur de travail, ils te nomment demandeur d'emploi, ils te le font croire, vaille que vaille, ta volonté poids sous leur poids. Ne te laisse jamais employer, utiliser, jeter, tu vaux mieux que ça, tu sais. Ne te lasse jamais de t'indigner, toi qui es libre de penser, prends la plume, prends l'épée. Tu es une offreuse de travail et te nomme demandeuse d'emploi.
Tu écris, tu peins, tu sculptes, tu tailles.
Pour eux, tu glandes au RSA.
Tu crées de la richesse humaine, mais tu
n'es pas un valet, tu es une reine. Force-les à jouer carte sur ta. Ne te laisse jamais employer, utiliser, jeter, tu vaux mieux que ça, tu sais. Ne te lasse jamais de t'indigner, toi qui es libre de penser. Prends la plume, prends l'épée. Ne te laisse jamais employer, utiliser, jeter, tu vaux mieux que ça.
Comme un bruit qui court,
tu sais.
On s'est fait voler nos métiers par des gens qui sont des gestionnaires. Par des gestionnaires, en gros des ingénieurs, des choses comme ça, quand vous étiez dans la logistique ou quand vous étiez des infirmiers, par des directeurs de soins. Et aujourd'hui, on a un gros problème, c'est que c'est ces gens-là qui pensent nos métiers. Et quand ils pensent nos métiers, ils ne les pensent pas vis-à-vis du patient, ils les pensent toujours de façon économique. Et on va voir l'apparition de médecins gestionnaires. Donc on aura des médecins qui vont demain penser la prise en charge du patient à travers des besoins qui seront très très loin du patient. Ils ne penseront qu'à travers la gestion économique et plus du tout par rapport à la prise en charge des patients. Et c'est ce qu'on vit maintenant depuis maintenant 15 ans, ce qui s'est mis en place et ce qui a transformé l'hôpital en hôpital d'entreprise. Et ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on le constate à travers ce gouvernement, c'est que la rentabilité, elle est faite pour quoi ? C'est pour qu'à un moment ou à un autre, on diminue l'engagement des finances publiques sur les biens communs pour aller le redistribuer sur les plus riches. Là, aujourd'hui, on voit bien que 46% des baisses d'impôts vont être réorientées sur les 10% les plus riches. Et aujourd'hui, c'est l'hôpital qui le paye. Et donc, à travers l'hôpital qui paye, c'est l'ensemble des citoyens.
Vous appelez comment ?
Apollinaire Bonnereau et je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou.
Bonne lecture. Alors,
Madame, là, on arrive à Necker.
On est à Necker. Il y a bien. Donc demain, rejoignez-nous en Paracochin.
Tu me tractes à l'entrée du bâtiment de la cantine.
Je parle pas, je distribue, moi je bosse.
La marche des hospitaliers pour qu'on partage d'hôpital en hôpital les difficultés qu'on rencontre.
C'est la marche d'En Marche.
C'est exactement à l'opposé d'En Marche. C'est la marche des hospitaliers pour améliorer nos conditions de travail. Exactement. Parce que quand on a un peu d'attachement au service public et qu'aujourd'hui le service public de santé en France est passé de la première place à la 12e place, on ne peut pas être fier. Et donc ils ont beau.
L'hôpital était le premier service public.
Le système de santé en France était le premier au niveau mondial, hein, c'était reconnu au niveau des institutions mondiales. Et le dernier classement nous met déjà 12e. Et ça s'est fait, mais avec une vitesse affolante. Hein. Je crois que c'est sur 10 ans où on a perdu les 12 places. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps de remettre en cause la méthode. Si jamais la méthode nous amène là, il faut qu'on arrive à un moment ou à un autre à la remettre en cause. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Okay. Bon courage. Bonjour, je vous donne un peu d'informations. Bon courage. Bonjour.
Remettre en cause la méthode, ouais. Parce que je ne sais pas si vous êtes allé à l'hôpital public récemment, mais c'est un peu comme revoir quelqu'un après une chirurgie esthétique qu'on n'aurait pas vue depuis longtemps. On a du mal à le reconnaître. Fini l'infirmière bienveillante. Aujourd'hui, l'hôpital public, c'est Lara Croft. L'efficience froide d'une machine couplée à la performance économique. Le tout emballé dans une belle carrosserie toute neuve. Pensez pour l'efficacité. Alors, pour que tout cela change, pour remettre un peu d'humanité à l'hôpital, allez rejoindre la marche des hospitaliers. La prochaine, c'est lundi à 10h. Ça part de la Pitié-Salpêtrière jusqu'à Bichat. Et le 2 octobre, rendez-vous avenue Victoria au siège de la PHP. Allez-y, car l'avenir de l'hôpital nous concerne tous.
C'était comme un bruit qui court dans la rue pour la rentrée sociale et les jeudis de la colère avec les sans-péritres. C'est le jeudi à 11h30 à Argenteuil. Toutes les informations sont sur le site de franceinter.fr. Abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit que le bruit court. Juste après les infos, vous retrouverez Daniel Morin. Et nous, on se retrouve samedi prochain à 16h.